Géopolitique. Marie-France Chatin.
Bonjour à tous et bienvenue dans Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. L'histoire s'accélère et Vladimir Poutine n'a jamais été aussi près de gagner sa guerre en Ukraine. Après 3 ans de combats acharnés qui ont fait des centaines de milliers de victimes des deux côtés, pour le président russe, la promesse de négociation est un premier pas vers une fin de la guerre aux conditions russes. C'est aussi un formidable renversement de situation alors que Joe Biden refusait les propositions de sommet de Vladimir Poutine et cherchait à maintenir isolé le dirigeant du Kremlin. L'approche de Trump est, comme on pouvait s'y attendre, aux antipodes de celle de son prédécesseur. Le chef de la Maison Blanche est même allé jusqu'à endosser le discours du Kremlin en accusant l'Ukraine d'avoir initié la guerre et Zelensky d'être un dictateur. Voilà la Russie subitement sortie d'une ostracisation diplomatique longue de 3 ans et l'Union européenne mise sur la touche de manière ostentatoire. Le grand rêve de Moscou semble clair, la mise à mal de l'alliance transatlantique. C'est une victoire pour Poutine. La glace est brisée, l'isolement terminé. Regard avec nos invités par téléphone, Marie Mandras, professeure à Sciences Po, membre de la revue Esprit. Son dernier ouvrage, La guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin, paru aux éditions Kalman-Lévy. Bonjour.
Bonjour.
En studio, Galia Ackermann, historienne spécialiste de la Russie et d'Ukraine, directrice de la rédaction de Desk Russie. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS. Son dernier ouvrage, Géopolitique de la Russie, paru aux éditions Erol. Bonjour.
Bonjour.
Vladimir Poutine a donc obtenu ce qu'il voulait, parler aux États-Unis et rien qu'à eux. Est-ce qu'on peut, Marie Mandras, parler de victoire?
Je vois surtout un échec, puisque certes, il a obtenu une conversation de 90 minutes avec Donald Trump, mais ensuite, les choses ont très mal tourné, puisque Trump a accepté toutes les demandes extravagantes de Poutine, qui étaient évidemment totalement inacceptables par l'Ukraine ainsi que par les États européens. Et donc, peut-être qu'il va continuer, que les deux hommes qui ont des rêves délirants vont continuer à converser, mais ils ont perdu leur sujet.
Alors, perdu leur sujet, Galia Ackermann, et puis ces demandes extravagantes de Poutine, de quoi est-il question ?
Il s'agit de 3 demandes qui ont été les demandes russes depuis longtemps, à savoir s'emparer complètement des territoires déjà formellement annexés par la Russie. Je ne sais pas, est-ce qu'il va insister sur le fait qu'il faut aller jusqu'aux frontières administratives des 4 oblasts, parce qu'elles ne sont pas totalement occupées, il faut le rappeler, par les militaires russes. Deuxième point, c'est la démilitarisation de l'Ukraine, c'est-à-dire les Russes ont toujours exigé qu'il y ait une diminution de l'armée ukrainienne et que surtout il n'y ait aucune présence des pays de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Ça veut dire, bien sûr, que toutes les idées des Européens d'envoyer les troupes en Ukraine, etc., ne seraient pas acceptables pour la Russie. Lavrov, la ministre des Affaires étrangères russe, l'a exprimé très clairement. Et la troisième chose, et elle est très très importante, c'est que les Russes, dès le début de la guerre et même avant, ne reconnaissaient pas la légitimité de Zelensky en tant que président, parce que les présidents issus, soi-disant, du coup de Maïdan depuis 2014 ne sont pas légitimes aux yeux des Russes. Et ensuite, maintenant, depuis quelque temps, il y avait ce discours russe que Zelensky n'est pas légitime parce qu'il n'y a pas eu d'élection prévue en mai 2024. Ce que je trouve tout à fait terrible, c'est que Donald Trump appuie toutes les demandes russes, c'est-à-dire qu'il a déjà cédé. Et je me demande même s'il n'y a pas eu d'entente secrète entre les deux avant même le début des négociations officielles. Parce que tout semble jouer d'avance, sauf que, en effet, Zelensky et le peuple d'Ukraine, bien sûr, et l'Union européenne représentent encore des obstacles majeurs à cette entente entre deux, on peut dire, impérialiste, parce que Trump a clairement des visées impérialistes, non seulement vis-à-vis de l'Ukraine, mais vis-à-vis du Canada, du Groenland, du canal de Panama, etc. Et Poutine, dont on n'a pas besoin de décrire les visées impérialistes.
Alors, ce sera intéressant, bien sûr, d'aborder la question des obstacles à l'entente. Jean de Glignasti, un deal entre les États-Unis et la Russie, de quoi peut-il être question ?
Eh bien, pour revenir un peu à votre première question...
Oui, sur la victoire.
Sur la victoire.
Vous parlez de victoire de Poutine.
Je pense que la Russie a perdu au début, dans les 3 semaines ou le mois qui a suivi la tentative d'invasion, parce qu'elle n'a pas pu prendre l'Ukraine. Ensuite, la question des territoires, les questions de... Tout ça, c'est un peu secondaire par rapport au fait que on a un pays, l'Ukraine, qui est consolidé, qui est, soudé par un patriotisme anti-russe très fort et qui est ancré à l'Occident. Ça, c'est la grande défaite de Poutine. Le reste, c'est... Il va avoir un lot de consolation, il va peut-être prendre le Donbass. Mais sur le Donbass, Zelensky lui-même a dit, vous savez, on ne sera pas accueilli en héros là-bas parce que tous les pro-ukrainiens sont partis ou sont en prison. Il a dit ça à des étudiants. Donc, il y a une question d'ajustement. Mais sur le fond, la Russie a perdu son grand projet, et pour très longtemps, parce que l'Ukraine sera anti-russe et pro-occidentale pour des dizaines et des dizaines d'années. Alors, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je trouve que le seul vainqueur dans cette histoire, le vrai vainqueur, c'est les États-Unis. Parce que ils vont avoir une Ukraine à eux. Ils ont commencé déjà à négocier les contreparties économiques.
Avec la question des minerais, oui.
Les minerais, tout ça. Zelensky, dans un sursaut, a dit non, mais à un moment ou un autre, il faudra qu'il accepte. Et de toute façon, les capitalistes viendront investir en Ukraine. Et il y aura beaucoup d'Américains, quelques Européens, etc. Donc, il est vainqueur, il a casé son gaz de schiste, donc c'est formidable, il a remplacé le gaz russe par le gaz de schiste que les Européens payent 3 fois plus cher. Et non seulement ça, mais sur le plan diplomatique, il faut bien voir qu'il apparaît dans le monde entier comme le facteur de paix. Alors que les Européens, d'ailleurs il l'a dit récemment dans son interview à CNN, les Européens apparaissent comme fauteurs de guerre. C'est ça le paradoxe un peu dans cette histoire. Donc, il gagne une position diplomatique, il gagne des intérêts économiques, il gagne un nouveau pays satellite, si j'ose dire. Donc, c'est lui le vrai vainqueur. La Russie sauve les meubles. Elle est dans cette espèce de délire, si j'ose dire, territorial. Donc, elle récupère les querelles historiques, tout ça. Et le vrai perdant, c'est l'Europe.
Alors, pour l'instant, Marie Mindras, Jean Glignasti vient de dire que Trump gagnait un pays satellite, en l'occurrence l'Ukraine, mais les Ukrainiens ne vont pas se laisser faire. Et quelles sont finalement les cartes qui sont dans leur jeu ?
Il me semble que les Européens, au contraire, maintenant ont la main. Et que ça a été justement la grande erreur de Trump. Trump n'impressionne personne. Il a perdu toute autorité en déclarant récemment que Zelensky était un dictateur et qu'il avait commencé la guerre. Je veux dire, une fois qu'il a dit ça, je pense que toutes les personnes bien informées le voient comme un vieux fou dangereux, honnêtement. Et que l'Amérique ne se reconnaîtra jamais dans des propos aussi délirants. Mais l'Europe, en revanche, qui vient d'être trahie par le président des États-Unis, en tout cas pour un moment, parce que combien de temps est-ce que Donald Trump pourra continuer dans son délire, on ne le sait pas. Et les Européens sont obligés de maintenant de prendre le leadership. Les autorités russes, la propagande russe, disent tous les jours qu'ils sont en guerre contre nous. Les cyberattaques, toutes les attaques aussi économiques contre des infrastructures, non seulement en Ukraine, mais également dans d'autres pays d'Europe, font que les Européens doivent absolument riposter parce qu'ils sont également attaqués. Et c'est là, c'est ce que précisément Poutine voulait éviter. C'est-à-dire que nous augmentions notre capacité militaire, notre capacité financière, notre capacité technologique dans le soutien à l'Ukraine. Et très probablement, dans quelque temps, nous aurons des hommes au sol, que ce soit des techniciens, des troupes de formation qui ne seront pas nécessairement immédiatement conduits à combattre sur le sol ukrainien. Donc, le résultat, au bout de ces trois semaines complètement folles, c'est que les Européens et les Ukrainiens reprennent absolument la direction des opérations.
La question qui se pose, Galia Kerman, c'est de savoir si les Européens sont en mesure de pouvoir vraiment prendre le relais. Trump est là avec ses chiffres en disant que les États-Unis ont beaucoup aidé. C'est vrai, mais les Européens n'ont pas été absents de tout cela. Une aide militaire, mais là-dessus, les Américains sont beaucoup plus présents, mais aussi une aide financière.
On exagère l'aide américaine par rapport à l'aide européenne.
Absolument, on exagère et surtout en proportion au PIB de nos pays. C'est-à-dire que l'Europe s'est investie humainement et financièrement et militairement et économiquement beaucoup plus en Ukraine que les États-Unis. Maintenant, nous avons nos propres démons et nos propres dangers. Parce qu'il y a déjà deux pays au sein de l'Union européenne qui ne parlent pas de la même voix que nous.
Pensez à la Hongrie.
À la Hongrie et la Slovaquie. Il y a maintenant l'Autriche qui est aussi entre les mains de l'extrême droite. On ne sait pas ce qui va se passer après les élections en Allemagne. En tout cas, l'alternative pour l'Allemagne est en partie montant. Et même si le nouveau gagnant des élections évite de passer une coalition, ça va être une force très importante. Il faut dire aussi que Elon Musk, qui détient, qui est propriétaire du réseau le plus important social X, ex-Twitter, est quelqu'un qui appuie activement l'extrême droite partout en Europe. Et nous avons vu que Vance, le vice-président américain, a préféré de rencontrer Alice Weidel, qui est la présidente d'Alternative pour l'Allemagne,
le
parti d'extrême droite, même fascisant, et pas le chancelier Scholz, dont les jours, c'est vrai, sont comptés. Donc, je pense aussi, pour revenir à l'Ukraine, je pense qu'il ne faut pas mettre de côté cette exigence maintenant conjointe russo-américaine sur l'organisation des élections en Ukraine, parce que là aussi, Elon Musk peut jouer un rôle absolument sinistre en envahissant les réseaux sociaux ukrainiens. Donc, nous sommes dans une situation dangereuse. L'Europe prépare un 16e paquet de sanctions. L'Europe continue de soutenir l'Ukraine. Mais nous avons vu avec la première réunion à l'Élysée que l'Europe ne parle pas tout à fait de la même voix, même avec les pays convaincus qu'il faut soutenir l'Ukraine. Et donc, on est encore très loin du consensus. Ensuite, il y a aussi la question pratique. Vous n'augmentez pas la puissance militaire en un jour. Vous savez, la fabrication du canon César, par exemple, prend 18 mois. Nous avons des armes tellement technologiques, de très haute technologie, de pointe, qu'elles demandent beaucoup de temps de fabrication. Je pense que l'Europe, si aujourd'hui elle prend la décision, les pays européens, de s'endetter, de dépasser la règle budgétaire pour augmenter les budgets militaires, bâtir, préparer plus de pilotes, préparer plus de militaires, parce qu'aujourd'hui c'est aussi des professions très technologiques, augmenter le volume des armements produits, ça prendra du temps. Il faut peut-être voir la ratio. J'ai entendu dire que l'Ukraine a pour l'instant encore assez d'armement pour continuer 6 mois. Est-ce que nous serons capables de lui fournir beaucoup davantage pour l'aider à repousser les Russes? Maintenant, nous comprenons que c'est soit l'Ukraine continue de se battre, soit elle sera tout simplement dépecée entre deux prédateurs. Et cette affaire de l'élection sur laquelle insiste aussi Trump que Poutine, c'est pas une mince affaire. On sait très bien que Zelensky est une sorte d'os dans la gorge des deux. Il faut enlever Zelensky à tout prix et mettre un pro-russe. Les Russes ont même déjà proposé des candidats à la succession à Zelensky. Et qui sont ces candidats? L'ancien président Yanukovych et l'homme Medvedchuk, l'homme d'affaires ukrainien qui était le président du Parti des Régions, parrain de la fille de Poutine, qui est un pro-russe notoire, accusé de haute trahison, échangé ensuite par les Ukrainiens contre des combattants d'Azov. Donc tout ça, nous entrons dans une période extrêmement dangereuse. C'est ça que je veux dire.
Alors, on l'a bien compris, Jean de Lignasty, les Américains veulent se débarrasser de Zelensky. Il n'y a pas que eux, puisque les Russes également. Est-ce que l'impatience de Donald Trump à vouloir se débarrasser de cette guerre russo-ukrainienne pourrait être d'une certaine manière favorable à Zelensky?
Si vous permettez, je voudrais répondre à votre première question sur l'Europe. Et je partage la prudence de Galia sur cette affaire. Le fiasco, parce qu'il faut bien l'appeler le fiasco, de la réunion de lundi dernier, alors que l'idée était assez bonne, c'était de mettre ensemble les puissances qui étaient capables de contribuer. Enfin, ils auraient pu mettre la Suède aussi dedans, à l'aide à l'Ukraine. Et en fait, on s'est rendu compte, d'abord, l'ordre du jour était très clair. Il s'agissait de répondre à une demande, un questionnaire en 6 questions présenté par Trump, qui consistait en fait à conditionner la participation européenne à la négociation à sa capacité à répondre à la demande russe sans doute, mais américaine surtout, pas russe d'ailleurs, garantie de sécurité pour l'Ukraine. Donc il y avait 6 questions. Est-ce que vous êtes capable de mettre des équipements, des troupes? Comment vous voyez l'intervention américaine? Quel type de garantie vous envisagez, etc. Et là-dessus, même avec les pays les plus responsables, on n'a pas été fichu de se mettre d'accord. Donc, et d'ailleurs, la réaction très hargneuse de Trump le lendemain à CNN, disant l'Europe n'est bonne à rien, dirigée par des incompétents, etc. C'était une réaction à l'incapacité de l'Europe à se mettre d'accord sur un projet de garantie de sécurité vis-à-vis de l'Ukraine. C'est pourtant par ce biais que l'Europe aurait pu rentrer dans la négociation, parce qu'il ne peut pas y avoir de paix sans garantie de sécurité européenne. Donc moi je suis relativement inquiet, même plus que ça, sur la capacité de l'Europe à répondre. Alors, sur la question que vous posiez, qui était...
De savoir si l'impatience de Trump pouvait être favorable à l'Ukraine, finalement. L'impatience à vouloir se débarrasser de ce conflit russo-ukrainien. En 30 secondes, Jean-Luc, oui, si je vous donnerai la parole après le journal. Pour...
Je pense que non. Je pense que non, puisque justement, l'Ukraine avait dit à juste titre qu'il faut que l'Europe participe aux négociations. Et là, je pense que l'Europe s'est malheureusement disqualifiée, en tout cas dans une première étape. La seule chose qu'on peut dire, c'est que Zelensky, quelque part, a peut-être intérêt à dire « Voyez, j'ai fait ce que j'ai pu et maintenant je me fais forcer la main par les Américains. » Parce que on ne peut pas ne pas être conscient en Ukraine que la machine de guerre russe est en marche, qu'ils subissent, grâce à l'héroïsme des soldats ukrainiens, des échecs partiels, mais que, en fait, globalement, surtout s'il y a une raréfaction de l'aide américaine et de l'aide européenne pour des raisons financières, budgétaires et matérielles, j'allais dire, l'Ukraine ne risque que d'aggraver en fait sa situation sur le terrain. Donc peut-être que pour répondre à votre question, la pression de Trump peut quelque part rendre service à l'Ukraine.
On vous retrouve, Jean de Lignasty, avec Galia Ackerman et Marie Mandras après le journal. À tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Regard sur le conflit russo-ukrainien. Nous retrouvons nos invités par téléphone. Marie Mindras, professeure à Sciences Po, membre de la revue Esprit. Son dernier ouvrage, La guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin, aux éditions Kalman-Lévy. Avec moi en studio, Galia Kerman, historienne, spécialiste de la Russie et d'Ukraine, directrice de la rédaction de Desk Russie. Et Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS. C'est son dernier ouvrage, Géopolitique de la Russie, aux éditions Erol. Marie Mindras, Jean de Glignasti, terminé la première partie de l'émission sur la notion de machine de guerre russe qui est en marche et puis la raréfaction de l'aide américaine à l'Ukraine. Tout cela va évidemment poser des problèmes parce que ça n'est pas parce que les négociations s'ouvrent que la guerre va s'arrêter. Qu'est-ce que l'on peut dire à ce stade, c'est-à-dire 3 ans après le début de la guerre russo-ukrainienne, qu'est-ce que l'on peut dire du rapport de force des uns et des autres sur le terrain ?
Premièrement, la machine de guerre russe, qui est aussi une machine économique, n'est pas à pleine vitesse en ce moment. C'est une illusion que nous avons, parce que d'abord nous vivons dans la désinformation du discours russe, dont est d'ailleurs totalement imprégné Donald Trump. C'est pour ça qu'il fait beaucoup d'erreurs quand il pense pouvoir obtenir un accord avec Poutine sur le dos des Européens et des Ukrainiens. Donc je pense qu'au contraire, il faut suivre de près les analyses des experts sur la surchauffe économique autour de l'industrie d'armement, qu'il faut comprendre que les armées sont de plus en plus dysfonctionnelles, à la fois par manque de formation des hommes, d'armement inadapté, de manque technologique aussi dans un certain nombre de domaines et de faiblesse du renseignement. Et qu'enfin, ces armées en Russie font face à non seulement une armée ukrainienne très bien formée, de mieux en mieux équipée, mais qui s'appuie sur le renseignement de tous les pays de l'Alliance Atlantique. L'OTAN fonctionne toujours et assure à l'Ukraine et à tous les voisins européens de l'Ukraine une capacité de riposte, une capacité de renseignement incomparable par rapport à celle qu'a la Russie. Et c'est pour cela qu'il est, je crois, très important de bien voir que la position de l'Union européenne, ou plutôt des Européens, est beaucoup plus solide que ce qui a été dit précédemment. La position européenne, et c'est ce qui est acquis ces derniers jours entre Européens, c'est que nous n'accepterons aucun cessez-le-feu avec l'État de Russie sans un accord de paix qui mettent à plat absolument tous les éléments de la cessation des hostilités et de l'organisation de la paix, c'est-à-dire qui inclut à la fois le retrait des troupes russes, mais aussi les sanctions pour crimes d'agression, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, des réparations à payer à l'Ukraine. L'accord de paix, il se fera sur des bases sérieuses. Et enfin, les Européens sont en train de s'entendre, donc évidemment sans les États-Unis pour le moment, sur cette ligne. Nous ne signerons pas à la va-vite un cessez-le-feu comme nous l'avons fait à Minsk en 2014 et 2015.
Mais tout cela signifie que l'Europe fasse partie des négociations, si elle en est exclue, Galia Kerman.
Mais elle n'en est pas exclue. Ces négociations entre Trump et Poutine, elles ont déjà fait flop. Elles ont déjà fait flop. Sans les Ukrainiens et sans les Européens, ces deux hommes peuvent parler entre eux, ils n'obtiendront rien.
Parce que la question qui se pose tout de même, Galia Kerman, c'est, bon, Marie Mindras l'a dit, la position européenne est beaucoup plus solide que certains ne veulent bien le faire croire, et que nous n'accepterons pas de cesser le feu sans accord de paix. Mais est-ce que les Européens vont pouvoir tenir cette position longtemps.
Je voudrais d'abord rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Marie Mandras. J'abonde dans son sens parce que c'est vrai que la Russie, avec un taux d'emprunt maintenant qui dépasse 20%, c'est le taux officiel de la Banque centrale, 21%. En réalité, les prêts pour l'industrie vont plutôt autour de 25-27%. Mmh. C'est-à-dire que ça rend la vie économique extrêmement dure. Il y a une inflation qui est importante, il y a un manque de main-d'œuvre, il y a aussi un manque quand même de volontaires, malgré les soldes très importantes qui sont payées aux militaires qui signent les contrats, donc aux mercenaires, on peut dire. Et il y a un manque que la Russie essaie de combler avec les soldats nord-coréens qui ne sont pas tout à fait aptes au combat et qui, dont les efforts sont difficiles à coordonner, ne serait-ce que pour des raisons linguistiques, mais aussi des questions de préparation militaire. La Russie essaie de recruter les étudiants, même africains. Elle a essayé de recruter les Cubains, les Népalais, etc., etc. Parce que, pour l'instant, il y a un consensus en Russie comme quoi, oui, c'est notre guerre, l'Occident veut nous détruire, etc. Mais apparemment, il y a plus, ils ont déjà vidé leur prison. Il y a eu plus de 200 000 de personnes condamnées pour les crimes graves qui sont allées à la guerre, dont beaucoup ont perdu la vue, les autres qui sont revenus sèment un peu la terreur dans les villes russes. C'est-à-dire la situation russe, économique et politique et sociale, n'est pas du tout brillante. Et on est actuellement en position d'une guerre d'usure. Qui tiendra plus? Parce qu'il y a bien sûr aussi des difficultés en Ukraine, il y a des désertions, il y a le manque d'argent. Maintenant, USAID, l'organisation, a cessé de soutenir des programmes très importants en Ukraine.
L'organisation américaine d'aide au développement.
Voilà. Donc, c'est une guerre d'usure. Et c'est là que, bien sûr, face à cette trahison, on peut dire, de Trump face au monde occidental. La trahison de nos valeurs, la trahison des principes qui ont gouverné nos vies politiques jusque-là, nous sommes confrontés, nous les Européens, pratiquement au double défi. On est à la fois contre les Russes et, on peut dire, contre les Américains, contre l'administration Trump. Est-ce que l'Europe pourra remplir le manque d'aide américaine? Est-ce que l'Europe pourra parler de la seule voix? La question, pour moi, est ouverte. J'espère que oui, bien sûr. J'espère.
Alors, on a vu que les questions économiques, et tout de même, le paradoxe, c'est tout de même aussi que la Russie a enregistré l'an dernier plus de 3% de croissance, parce que c'est l'industrie militaire qui porte cette croissance ou pas. Jean de Glignasti, sur ce qui vient d'être dit, réaction et complément de...
Je crois que ce n'est pas la première fois qu'on prend nos désirs pour des réalités. On prévoyait l'effondrement de l'armée russe après les premières victoires ukrainiennes, et finalement, même en bouchant les trous avec des prisonniers, etc., mais ils ont tenu le coup, et petit à petit, ils sont montés en puissance. On prévoyait l'effondrement de l'économie russe. Notre ministre des Finances le citait. Et en fait, la Russie a fait 3,5 et 4% de croissance en 23 et 24, alors que nous sommes dans la stagnation. Donc, encore une fois, la Russie n'est jamais aussi forte qu'on le craint et aussi faible qu'on l'espère. Donc, je pense que la machine russe est en place avec toutes ses dysfonctions, tous les défauts que Galia a décrits. Mais elle est là, elle est en train de gagner. Du côté ukrainien, force est de constater que l'Ukraine a eu à plusieurs reprises la possibilité de signer des accords qui étaient à chaque fois défavorables, mais de plus en plus défavorables. En 2014, en marge de Maïdan, les Européens avaient proposé un accord de paix avec de nouvelles élections, le départ de Yanukovych, etc. Maïdan a refusé, c'était un mouvement de foule. Et là, les Européens ont été très responsables, parce qu'ils auraient dû dire « c'est notre accord, prenez-le, c'est le meilleur », etc. À ce moment-là, l'intégrité territoriale de l'Ukraine aurait été totalement préservée. Puis ensuite, il y a eu Minsk. Alors, il y a tout un débat sur Minsk, mais il n'en reste pas moins que la clé de Minsk, c'était l'octroi d'un statut spécial pour le Donbass et l'amnistie pour les rebelles. Bon, et ça, l'Ukraine, pour des raisons politiques internes explicables, n'a pas pu le donner. Et après l'accord de Minsk, l'Ukraine perdait la Crimée. Après l'accord de Minsk, elle a perdu le Donbass. Ensuite, il y a eu l'accord d'Istanbul. Alors là aussi, c'était contestable. C'était d'ailleurs un accord... je ne sais pas jusqu'à quel niveau les Russes étaient prêts à s'impliquer dedans, mais il était sûr qu'il restait trois points à régler. Le New York Times est tout à fait explicite là-dessus, puisqu'on a les textes, y compris stabilo-bossé pour Poutine. Donc les trois points qui restaient, c'était les effectifs de l'armée ukrainienne, la question de la sécurité et l'interdiction de survol automatique en cas de violation de l'accord de paix. Bon, la rencontre n'a pas pu se faire, mais là, à l'époque, on ne parlait que du Donbass, c'est-à-dire qu'il y aurait eu la Crimée et le Donbass. Maintenant, les Russes demandent la Crimée, le Donbass, Zaporijja, Kherson, plus la Crimée. Donc, plus le temps passe, plus la situation en Ukraine se détériore. Donc, moi, je crois que, compte tenu du fait à des conditions d'investissement, de ces garanties de sécurité, etc., etc., je serais ukrainien, je me poserais sérieusement la question de ne pas emboîter en négociant mieux avec l'aide des Européens, qui, pour l'instant, n'est pas crédible. Quand les Européens disent « on va revenir aux frontières de 2014 », c'est pas sérieux, c'est pas crédible. Même Zelensky sait bien que c'est pas possible. Donc les Européens sont dans une position totalement irréaliste qui les exclut du jeu des négociations. Donc je serai ukrainien, j'y regarderai à deux fois avant de faire capoter ces négociations. Bien sûr, ils ne sont pas en première ligne, ils ne participent pas directement, mais ils peuvent encore faire valoir leurs exigences, leurs droits et leurs points de vue.
Marie Mandras, sur ce que vient de dire Jean-Duc Lignesti.
C'est vraiment désarmant, c'est le cas de le dire, d'entendre comme ça la réécriture des 11 dernières années de confrontation voulue par la Russie depuis 2014 contre l'Ukraine. Et finalement, de laisser entendre, comme le dit Trump, c'est la faute des Ukrainiens. Si maintenant ils sont... obligés de céder à des demandes totalement intolérables par le dictateur à Moscou. C'est un petit peu ce qu'on est en train de dire, que les Ukrainiens, finalement, ils auraient dû déjà accepter la première agression, laisser aux Russes ce qu'ils voulaient et continuer. Toute la sécurité de 500 millions d'Européens au moins, en incluant évidemment les Ukrainiens, les Géorgiens, les Biélorusses, est en question aujourd'hui. Tous nos gouvernements, tous nos experts, tous nos élus comprennent parfaitement l'urgence de la situation pour l'ensemble de nos pays, l'ensemble de nos sociétés, et comprennent qu'on a trop longtemps fait confiance au grand allié américain. On aurait dû s'y préparer, parce que déjà pendant les années du mandat Biden, le soutien à l'Ukraine n'a pas été à la hauteur de ce qu'il aurait pu être. Donc, les Européens n'ont pas le choix. Ils sont en train de mettre en place une politique beaucoup plus concrète, avec des étapes, à la fois sur le plan évidemment du soutien militaire, mais aussi de la diplomatie, de l'économie, puisque nous allons appliquer des sanctions de plus en plus dures contre les élites dirigeantes russes, ce qui va encore plus réduire en fait la marge de manœuvre des Russes. Il faut aussi rappeler que la Russie est seule, elle n'a pas d'alliés, elle a quelques soutiens de la Chine, de la Corée du Nord, de l'Iran. Mais c'est pas grand-chose. En réalité, elle ne peut aujourd'hui, et dans les années qui viennent, elle ne pourra plus compter que sur ses propres ressources. Une population qui ne soutient évidemment pas la guerre, ne veut plus envoyer des hommes mourir en Ukraine sans comprendre pourquoi, sans que Poutine ne leur dise à aucun moment quel jour ils vont enfin sortir de ce tunnel. Donc, au contraire, nous sommes aujourd'hui, je crois, dans une position où nous ne pouvons plus tergiverser. où nous ne pouvons certainement pas reculer et où nous savons que si nous laissons les Ukrainiens dans une zone grise, ouverte à tout vent, que c'est l'ensemble de l'Europe qui va perdre ses bases fondamentales, hein, la nature de nos institutions politiques, la solidité de nos économies, la consolidation de l'Union européenne. Et très franchement, de tout ce que j'ai pu suivre de près ces derniers jours, il me semble que même quels que soient les gouvernements au pouvoir dans les mois qui viennent dans des pays européens, cette solidarité face aux demandes totalement déraisonnables de Vladimir Poutine et de Donald Trump, je pense que cette solidarité va se renforcer.
Galia Kerman, je me tourne vers vous. Les sondages montrent qu'une majorité de Russes souhaitent la fin de la guerre. Quel sens a eu cette guerre pour Vladimir Poutine ?
C'est sa visée impérialiste de l'histoire et de l'actualité. Poutine veut l'Ukraine parce que un vrai empire ne peut pas exister sans l'Ukraine. Et l'Ukraine est aussi un pays extrêmement riche, pas seulement en minerais rares, aussi en sols les plus fertiles au monde. Et ça a toujours été quelque chose qui a été convoité. Ça a été convoité par les Russes, ça a été convoité par la Pologne, jadis. Ça a été convoité par les Allemands. C'est-à-dire, c'est un terrain en Europe que Timothy Snyder, l'historien américain, appelle « terre de sang ». Et donc, pour Poutine, c'est une condition sine qua non aussi ne pas donner à l'Ukraine la possibilité de choisir la voie occidentale. C'était ça le grief principal pendant le Maïdan. La Russie veut une Ukraine qui soit pro-russe, qui soit sous la mainmise russe. Et donc, pour Poutine, ceci est intolérable. La guerre est aussi pour lui un excellent moyen de mobiliser son peuple, de rester au pouvoir, parce qu'il y a maintenant une énorme éducation patriotique, il y a la propagande, toutes les voix de l'opposition ont été simplement tues de façon artificielle par la fermeture, par même des assassinats ciblés, par la contrainte à l'exil, etc. Et donc, c'est une société aujourd'hui aguerrie, on peut dire, qui même si elle ne veut pas se battre personnellement, je pense qu'il y a une forte proportion des Russes, on ne peut pas savoir laquelle exactement, qui croient que vraiment la Russie est une sorte de forteresse assiégée et que l'Occident veut sa perte. Là, la trahison de Trump, la trahison de l'Occident par Trump est très importante parce que nous avions ce levier des sanctions. Maintenant, Trump parle de la levée des sanctions américaines. Donc, on va dans deux sens complètement opposés. Encore une fois, je souhaite de tout cœur la victoire de l'Ukraine et la victoire de l'Europe contre cette alliance de deux dictateurs, Trump et Poutine. Mais on ne sait pas, on n'a pas la boule de cristal pour savoir comment ça va se terminer.
Et on n'est pas revenu sur cette question d'entente secrète entre la Russie et les États-Unis. On aura probablement d'autres occasions d'en parler. Merci Galia Kerman, je rappelle que vous êtes historienne, spécialiste de la Russie et d'Ukraine, directrice de la rédaction de Desk Russie. Merci aussi à Marie Mindras qui était avec nous par téléphone, professeure à Sciences Po, membre de la revue Esprit, dernier ouvrage paru, La guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin, aux éditions Kalman-Lévy, et Jean de Glignesti, ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS et auteur pour son dernier ouvrage de géopolitique de la Russie paru aux éditions Erol. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, David Brockway à la réalisation et Cécile Lavolo. Vous êtes bien sur RFI, place au journal.